Chers frères et sœurs et chers amis, notre titre pour aujourd'hui, ou si vous voulez notre thème, c'est « Comment vivre quand les autres nous tapent sur les nerfs ?» Un ami pasteur m'a raconté la chose suivante. On m'écrit fréquemment « Cher pasteur, à tel et tel endroit, chez des parents qui sont brouillés, ne pourriez-vous pas aller les voir ?» Mais je refuse d'y aller parce que je sais que cela ne sert à rien de leur donner des conseils. Oui, en effet, voyez-vous, c'est délicat. Pensez un instant aux personnes qui vous tape sur les nerfs. J'aurais beau vous donner mon avis sur ce que vous devez faire, ce serait parfaitement inutile. Et cela est tragique, même si, à première vue, cela peut sembler comique. Je m'explique. Imaginez que je sois en visite dans une famille. Arrive le fils de 17 ans, décontracté, en blue jeans délavé, les cheveux à la Beatles, et alors là, la moutarde monte au nez du père, c'est évident, car c'est un fonctionnaire consciencieux et très correct. Il explose. Mais regardez-moi cela. Oui, regardez un peu cela. Et le sang du père ne fait qu'un tour, alors qu'il se trouve face à son garçon. Ou prenez, par exemple, le cas d'une gentille maman chrétienne, un peu légaliste sur les bords. Sa fille se met un peu de rouge à lèvres. Et la maman de s'exclamer « Ce qu'elle peut me taper sur les nerfs !» Et la fille de dire à son tour « Ce qu'elle peut me taper sur les nerfs !» N'en est-il pas partout ainsi, chers amis? Un homme, en instance de divorce auquel je disais que le divorce est un péché, me répliqua « Monsieur le pasteur, taisez-vous. Rien que la façon dont ma femme sirote sa soupe me tape vraiment sur les nerfs. » Vous trouvez cela amusant? Moi, cela m'épouvante. Vous pensez que ces choses sont sans importance? Non. Ce ne sont pas des bagatelles. Ce sont les symptômes du monde malade, déchu, rebelle, dans lequel nous vivons comme des êtres sans Dieu. C'est cela. Aussi, chers amis, l'exaspération peut parfois revêtir des formes très graves. Je connais une jeune fille complètement paralysée par la sclérose en plaques. Elle habite une petite maison. À côté vit un jeune homme égoïste et brutal qui regarde la télé tous les soirs en mettant le son aussi fort que possible. Chaque soir, la jeune fille malade entend tout à travers la mince cloison qui sépare les deux maisons. Or, un jour, elle a supplié le jeune homme de baisser un peu le son de son téléviseur. Mais il a fait exactement le contraire. Il l'a fait jouer encore plus fort. Et il faut qu'elle le supporte heure après heure. Voilà le genre de brute que que nous sommes. Et c'est écœurant. Pouvez-vous imaginer à quel point cet homme tape sur les nerfs de la pauvre jeune fille, et vice-versa? Un combat silencieux se livre à travers cette cloison et rend la vie extrêmement pénible. Mais heureusement, j'ai un message fabuleux, un message bouleversant à vous annoncer au sein de cet événement, de cet agacement réciproque. Eh bien, Dieu intervient dans son inconcevable miséricorde. Il ne reste pas passif face à la situation lamentable de ce monde. Non, il intervient, et il le fait de façon merveilleuse. Tel est le message de la Bible, un message à vous couper le souffle. Il abat le mur qui nous sépare de lui et vient à nous en la personne de son Fils Jésus-Christ. Si les gens de notre époque refusent l'Évangile parce qu'ils le jugent dénué d'intérêt, loin de militer contre l'Évangile, cela témoigne de la bêtise de nos contemporains qui, en rejetant Jésus-Christ, repoussent leur seule planche de salut. Pour des êtres qui, comme nous, sont brouillés avec Dieu et avec leurs prochains, quelle chance inespérée que la destruction du mur qui nous séparait de Dieu et la venue de son Fils Jésus-Christ qui inaugure le changement le plus radical de notre situation. À présent, je voudrais vous montrer que en Jésus-Christ est réuni tout ce qu'il y a de meilleur. Jamais il n'y a eu de rupture entre Dieu et lui, car il est le Fils de Dieu. L'autre jour, quelqu'un me disait « Jésus était un homme comme nous, tout au plus un fondateur de religion. » Nous ne parlons sans doute pas de la même personne, lui ai-je répondu. Moi, je fais allusion à celui qui a dit « Vous êtes d'en bas, mais moi, je suis d'en haut. » Oui, c'est à lui que je pense, à lui, le Fils de Dieu vivant, le tout autre, l'être prodigieux qui a fait irruption dans notre monde perdu et maudit. Il n'y a pas eu de rupture entre Dieu et lui. Et personne ne lui a jamais tapé sur les nerfs, pas même Judas, qui l'a pourtant trahi. Bien au contraire, Jésus-Christ a aimé Judas jusqu'au bout. Je voudrais vous faire voir Jésus sous cet fameux éclairage, comme le seul homme à qui personne n'a tapé sur les nerfs. Prenez par exemple le récit de son dernier repas, le dernier repas avec les disciples. La veille de sa mort, en Orient, vous le savez, on ne s'assied pas sur les chaises, mais on s'allonge sur de grands coussins disposés tout autour de la table. J'ai du mal à m'imaginer comment on pouvait manger dans une telle position. Ce qui est certain, c'est qu'il est impossible de se servir d'une fourchette et d'un couteau en étant couché. mais eux mangeaient ainsi. Au préalable, ils ôtaient leurs sandales et avaient l'habitude de se laver les pieds. Or, les disciples avaient fait ce jour-là un long trajet à pied avec Jésus. Avec Jésus, ils étaient tous, y compris le Seigneur, fatigués. Ils enlevèrent leurs sandales et se jetèrent sur les coussins. Et j'imagine Pierre qui regarde Jean et lui faisant signe des yeux comme s'il voulait lui dire « Attention, écoute bien. Il me semble qu'il faudrait que l'un de nous aille chercher de l'eau et une éponge pour laver les pieds des autres. Pour une fois, tu pourrais le faire, car tu es le plus jeune. » Mais Jean hausse les épaules et il se dit « Mais ce Pierre commence à m'énerver. Il veut toujours me faire la leçon parce que je suis le plus jeune. Jacques pourrait tout aussi bien aller chercher l'eau et l'éponge pour le lavage des pieds. » Mais Jacques pense de son côté « Mais pourquoi justement moi ? Je suis un des disciples préférés du maître. » Que Matthieu s'en occupe pour une fois. » Et ainsi, ils se tapent réciproquement sur les nerfs parce que chacun cherche à esquiver la corvée ennuyeuse. Mais voilà que Jésus-Christ se lève et les disciples pâlissent. Ce n'est tout de même pas lui qui va le faire. Si, c'est bien lui. Il revient, portant le tablier du domestique de la maison et tenant dans ses mains la bassine avec l'eau et l'éponge, et il se met à laver les pieds de ses disciples, ceux de Judas, de Pierre, de Jean, de Jacques, de Matthieu. J'étais sur le point d'ajouter « et les miens ». C'était bien lui, oui, le Fils de Dieu, qui réunit dans son être tout ce qu'il y a de meilleur. Dieu est en lui et il aime son prochain. Mais à présent, je vais vous montrer Jésus-Christ là, sur la croix. Laissez-moi vous entraîner hors des portes de Jérusalem, sur la colline où vocifère la populace, où les soldats romains montent la garde, armés de leurs lances, où se dressent les trois croix. Celui dont je voudrais vous parler se trouve sur la croix du milieu, une couronne d'épines sur le front. Fixez sur lui toute votre attention, mes chers amis, car c'est pour vous qu'il agonise et qu'il meurt. C'est pour vous arracher à votre misère et vous réconcilier avec Dieu. Voulez-vous, chers amis, que l'obstacle qui s'est mis entre Dieu et vous soit écarté? Approchez-vous de la croix de Jésus-Christ, ce Jésus qui est mort et ressuscité pour vous. Il vous a été envoyé par Dieu comme messager de paix. Ne vous laissez pas arrêter par vos doutes, même s'ils sont très nombreux. Faites confiance à Jésus-Christ et apportez-lui le poids de vos fautes. et puis dites-lui simplement « Désormais, c'est à toi que je veux appartenir. » Je vous assure que si vous faites tout cela, ce pas très important, eh bien Dieu vous fera don de sa paix. L'apôtre Paul l'affirme clairement dans sa lettre aux Romains. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ est le messager de paix envoyé par Dieu. Accueillez-le. Il est affreux de penser à tous ceux qui ont entendu parler de lui sans accepter son offre de paix. Pour autant, ne faites pas comme eux. Laissez-moi plaider avec vous. Par amour pour votre âme, dites oui à l'offre de paix que Dieu vous fait par Jésus-Christ. Les belles paroles que nous servent nos penseurs et nos politiciens ne sont pas prises au sérieux par ceux qui les prononcent. Et moi, je devrais y croire? Non, je ne saurais à quoi me fier ici-bas, si ce n'est à l'offre de paix que Dieu me fait par son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Et cette offre, je peux la prendre au sérieux. C'est la seule chose à laquelle on puisse encore se fier. Et cela vaut la peine qu'on y réfléchisse. Si donc vous faites partie de ces gens désabusés qui disent « On ne peut plus se fier à personne. L'Évangile est juste ce qu'il vous faut, car, voyez-vous, en Jésus-Christ, Dieu vous a pris terriblement au sérieux. À votre tour, prenez au sérieux l'offre de paix qu'il vous fait par Jésus-Christ. Jésus-Christ rétablit le contact entre Dieu et nous. Vous me direz peut-être, mais je suis pratiquant, mais je paye ma part de l'impôt ecclésiastique. À quoi cela vous sert-il si vous n'avez pas la paix avec Dieu? Laissez-moi vous le répéter. Christ est mort pour vous. Il a pris sur lui toutes vos fautes pour que vous puissiez venir à lui, pour que vous puissiez vous jeter à ses pieds et lui dire « Ô Seigneur, je viens à toi, sachant fort bien que je suis un pécheur perdu, mais je crois en toi. Je t'accepte comme mon sauveur et vous pouvez ainsi accéder à la vie, oui, à la paix avec Dieu. » En faisant irruption dans une vie, Jésus-Christ apporte non seulement la paix avec Dieu, mais aussi celle avec le prochain. On cesse alors de se taper sur les nerfs. Il se peut qu'il y ait parmi vous des chrétiens formidables, mais tant que les autres vous taperont sur les nerfs, il y aura quelque chose qui cloche chez vous. C'est clair. Vous me direz peut-être, mais vous ne connaissez pas ma voisine, c'est une vraie peau de vache. Et moi je vous répondrai, tant que vous ne l'aimerez pas, il y aura quelque chose qui cloche chez vous. Car au moment où Jésus-Christ entre dans notre vie, nous cessons d'avoir les nerfs à fleur de peau et d'être continuellement agacés par notre entourage. Jésus-Christ nous offre en effet la paix avec Dieu et la paix avec celui qui nous tape sur les nerfs. S'il y a donc des gens qui vous exaspèrent, il vous faut absolument Jésus-Christ. À part lui, rien d'autre ne vous aidera. Et ces tensions finiront par vous achever nerveusement. Oui, il faut que Jésus-Christ vous donne la paix avec Dieu, qu'il entre dans votre vie. Alors seulement cela ira bien aussi avec les autres. Je connais un homme du nom d'Erino D'Apozzo, qui a travaillé comme évangéliste en France, en Suisse et en Italie. Il est revenu avec un bras tout abîmé de son séjour en camp de concentration. Or, un jour, il m'a raconté un épisode de sa vie que je n'oublierai jamais. Il a dit, « Dans le camp de concentration où j'étais interné, le chef du camp me fit chercher un jour vers midi. On me conduisit dans une pièce où l'on avait disposé un seul couvert sur la table. Le chef du camp entra. J'avais une faim de loup. Et cet homme se mit à table et se fit servir un repas de roi. Moi, je devais me tenir au garde-à-vous. Ah oui. Et je devais le regarder manger un plat après l'autre. Il se léchait les babines, tandis que je mourais de faim. Mais, attention, le pire allait encore venir. Lorsque on lui servit le café, il sortit un petit paquet qu'il posa à côté de sa tasse. Et puis il me dit, « Regardez ce paquet. C'est votre femme qui vous l'a envoyé de Paris. Il est rempli de biscuits. » Je savais qu'on n'avait pas grand-chose à manger en France et ma femme avait dû se priver pour me faire ses petits gâteaux. Et voilà que cet homme se mit à les manger l'un après l'autre et je le suppliais, s'il vous plaît, donnez-moi au moins un, juste un, pour que je le garde en souvenir de ma femme. Je vous promets même que je ne le mangerai pas. Mais en riant, il les mangea jusqu'au dernier. Dans des moments comme celui-là, l'exaspération atteint son point culminant et se mue en haine. D'Apozzo poursuivit son récit. Soudain, je sus ce que signifie cette parole de la Bible où il est dit que l'amour de Dieu et répandu dans nos cœurs, je ressentis de la compassion pour cet homme méchant. Je pensais, pauvre homme, tu n'as personne qui t'aime. Tu es entouré de haine. Quel privilège que j'ai en tant qu'enfant de Dieu celui qui m'aime. Il y a eu de la compassion, en effet, et il l'a eu, cette compassion, pour ce chef de camp, affreusement méchant. Et celui-ci ne lui tapait plus sur les nerfs. Et il a dû le sentir, car tout à coup, il s'est levé précipitamment et est sorti. Après la guerre, Tapo Tso alla lui rendre visite. En le voyant devant sa porte, cet homme pâlit. « Vous voulez vous venger ?»« Oui, » répondit Tapo Tso, « je vais me venger. Et je voudrais boire une tasse de café avec vous. Dans la voiture, j'ai apporté un gâteau et nous pourrons ainsi boire et manger ensemble. » Bouleversé, l'Allemand se rendit soudain compte qu'un homme qui s'est soumis à Christ n'est plus sous l'emprise de la haine, qu'il a été libéré du bouillonnement de l'exaspération parce que l'amour de Dieu a été répandu dans son cœur. J'ai souvent entendu les gens se plaindre. Je me sens si seul, personne ne m'aime. Je ne peux plus entendre cela, car j'ai envie de répondre à ces gens-là. Et vous, dites-moi, à combien de personnes avez-vous témoigné de l'affection ? Il n'est en effet pas très logique de dire qu'il n'y a pas d'amour dans le monde si l'on est soi-même un glaçon. Après avoir compris cela, je me suis dit, je voudrais aussi témoigner de l'amour à autrui. Mais je me suis très vite rendu compte que cela m'était impossible. Notre cœur est tellement égoïste. Je sais bien qu'il y a des gens auxquels nous attachons en quelque sorte une sympathie. Mais les autres, ceux qui nous tapent sur les nerfs, je me rappelle une conversation que j'ai eue avec un ouvrier. Il me disait, nous avons manifesté en faveur des coolies de Shanghai. C'est épatant, lui répondis-je. Et où en sont vos relations avec votre voisin? Il explosa carrément. Oh, celui-là! Si je le rencontre, je lui casse la figure. Il n'est pas trop difficile d'aimer quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, mais les choses se compliquent lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui vit dans notre entourage. Or, je pense que le monde ne changera qu'à condition que j'arrive à aimer mon prochain, y compris celui qui est difficile à vivre ou qui me veut peut-être du mal. Cela ne va pas du tout tout seul. C'est un cadeau de Dieu. Cela n'est pas facile. J'en ai moi-même fait l'expérience. Lorsque Christ entre dans notre vie, il nous fait le don de la paix avec Dieu et veut ensuite nous donner aussi la paix avec notre prochain. Cela fait en effet très mal, car il nous montre que nous énervons les autres beaucoup plus qu'ils ne nous énervent, qu'il est donc plus pénible pour eux de nous supporter que l'inverse. Depuis que je connais Jésus-Christ, il a souvent mis le doigt sur mes torts à l'égard des autres. Et j'apprécie toujours davantage le fait que Jésus-Christ est mort pour moi sur la croix et qu'il m'accorde le pardon de mes péchés. Jésus-Christ peut produire en nous la plus grande révolution du monde. Mais pour cela, il faut l'accepter, lui. Et de ce fait, je vous prie de ne pas vous borner à écouter mes paroles, mais de prendre Christ au sérieux. J'aimerais tant que vous puissiez dire « J'ai trouvé Jésus-Christ et lui m'a trouvé ». Oui, chers amis, il faut que ça change. Mais comment ? J'ai souvent eu l'occasion de demander aux gens « Dites donc, votre vie est-elle parfaitement en ordre ?» Et jamais encore je n'ai rencontré quelqu'un qui n'ait fini par avouer « Parfaitement en ordre ?» Oh, pas tout à fait. Car dans bien des domaines, il faudrait que les choses aillent autrement. Aussi, de temps en temps, prenons-nous de bonnes résolutions. Je vais changer. Et dans tel ou tel domaine, je dois absolument m'amender. Sincèrement, croyez-vous qu'un homme puisse changer? Non. Au fond, il en est incapable. La Bible le dit avec une résolution ou un réalisme brutal. Elle dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard, ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumé à faire le mal? Le monde abonde en leçons de morale et en bonnes résolutions, mais aucun être humain ne peut changer par lui-même. C'est une parole dure. Et je suis souvent bouleversé en rencontrant certaines personnes qui savent pertinemment que leur vie n'est pas tout à fait au point. Parfois, elles me demandent « Mais que faire ? Nous sommes incapables de changer. » Et c'est juste, l'impudique ne peut pas se donner un cœur pur. L'égoïste ne peut pas brusquement devenir altruiste. Mais s'il réussit à feindre d'aimer un peu, ce peu d'amour sera entaché d'égoïsme et le malhonnête ne peut pas se muer en honnête homme. Si seulement je vous connaissais suffisamment pour pouvoir vous dire où est le point faible du pont de votre vie. Mais Dieu le sait, et il peut vous le montrer. La Bible nous présente là une vérité bouleversante. En effet, ce n'est pas ma pensée que je développe, mais je vous transmets ce que dit la parole de Dieu. Et voyez-vous, il nous adresse un message inouï à vous couper le souffle. Le voici. Le Dieu vivant a envoyé quelqu'un dans le monde qui peut nous transformer et changer toute notre vie. Et cette personne n'est autre que son Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Mes chers amis, j'ignore si c'est par la faute de l'Église que les gens s'imaginent que l'Évangile est une histoire à dormir debout. En ce qui me concerne, je trouve son message extraordinaire, car Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour nous donner une chance. Et Jésus-Christ fait cette déclaration époustouflante. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Oui, lui seul peut changer l'être humain. J'ai connu des alcooliques qui ont été délivrés de vieilles femmes égoïstes au point de tourmenter tout le monde autour d'elles, qui ont changé d'un jour à l'autre et se sont mises à penser aux autres. Oui, des hommes obsédés par le sexe qui ont retrouvé la pureté d'un enfant. Jésus-Christ transforme et il arrive. Voici que toutes choses deviennent nouvelles. Ce n'est pas un conte de fées. Je pourrais encore citer quantité d'exemples. Ou si c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de ce Sauveur. Nous qui savons pertinemment que le pan de notre vie n'est pas tout à fait au point. Nous avons besoin du Seigneur Jésus, non pas d'une forme de christianisme, mais du Christ lui-même. Comprenez-moi, ce qu'il nous faut, ce n'est ni une religion, ni des dogmes, ni l'apparence à une église ou son appartenance. Mais il nous faut le Sauveur vivant. Ça change tout. Et il est là. Vous pouvez faire appel à lui aujourd'hui même. Et vous pouvez lui avouer toute la misère de votre vie. Voilà le message extraordinaire que j'ai à vous annoncer. La vie de la plupart d'entre nous décrit sans cesse les mêmes vieux cercles, les mêmes péchés, les mêmes détresses, la même impiété, le même désespoir au fond de nos cœurs. Chaque jour, le même quotidien, la même routine, on tourne inlassablement en rond. Mais tout près, il y a le courant. Il émane de Jésus, le Fils de Dieu. Ce Jésus-Christ est mort pour nous sur la croix. Et vous pouvez me croire, si Dieu a laissé mourir son Fils bien-aimé d'une mort aussi cruelle, il y avait une raison à cela. Même si pour le moment, il vous échappe. Contemplez-le en esprit, alors qu'il agonise sur la croix. Il doit y avoir un sens à cette mort. Vous ne pouvez donc pas passer outre sans au moins essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Et puis le troisième jour, Dieu l'a fait sortir vivant du tombeau. Or, de ce Jésus émane un courant libérateur. Mais hélas, nous sommes comme ce morceau de bois dans le jardin anglais. Nous tournons continuellement en rond sur nous-mêmes. Or, nous ne sommes pas un morceau de bois. Le pas hors du cercle vicieux, oui, le pas vers le courant libérateur qui émane du Fils de Dieu, nous devons le faire nous-mêmes. Et une fois que nous l'avons fait, nous constatons que Dieu y a aussi mis la main. Mais pour le moment, je dois insister sur le fait que c'est vous qui devez faire le pas vers ce courant libérateur. Il y a d'ailleurs des personnes qui sentent très nettement que Dieu agit dans leur cœur pour qu'ils fassent le pas qui les fera sortir du vieux cercle vicieux en les entraînant vers le courant libérateur qui émane de Jésus-Christ. Je vais essayer d'illustrer cela à l'aide de deux récits bibliques. L'apôtre Paul avait été incarcéré à Césarée, la ville où résidait le gouverneur romain. Le nouveau procurateur de la Judée était un Romain du nom de Festus. Celui-ci reçut un jour la visite du roi juif Agrippa et de sa sœur Bérénice, qui lui dirent « Festus, tu détiens ici un prisonnier fort intéressant du nom de Paul, et au fond, nous aimerions bien entendre cet homme. » Le lendemain donc, on prépare la salle d'audience. Festus, Agrippa et Bérénice y font leur entrée en grande pompe avec les tribuns et les principaux de la ville. Sur l'ordre de Festus, on fait entrer l'accusé. Mais en l'espace de quelques minutes, les rôles sont inversés. L'accusé, ce n'est plus Paul, mais toute la société réunie autour de lui. Il se tient là et prononce un discours d'une rare puissance spirituelle, s'efforçant de faire comprendre à ses auditeurs qui est Jésus-Christ. Plutôt que d'insister sur leur péché, il leur dépeint le Fils de Dieu, celui qui a dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Il leur dit à peu près ceci « Vous, avec votre soif de vivre, votre conscience chargée, votre nostalgie de Dieu, votre peur de la mort, écoutez-moi bien. Christ vous tend la main et vous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » C'est ainsi qu'il exalte ce Jésus-Christ qu'il a lui-même rencontré un jour. Quand il a fini de parler, le gouverneur Festus lui dit « Paul, tu as la parole facile, mais il y a un peu de folie dans ce que tu dis. tu te laisses emporter par ton tempérament. Or, Festus n'a rien compris. La Bible nous dit de certaines personnes que leur cœur est insensible comme la graisse, des cœurs comme enduits de graisse sur lesquels tout glisse. Et cela existe, peut-être même parmi vous. En tout cas, Festus en avait un, mais Agrippa est tout bouleversé et il prononce une parole qui m'émeut profondément. Paul, pour un peu, eh bien tu m'aurais persuadé de devenir chrétien. Là-dessus, il se retire. Et les choses en restent là. Sa vie continue à décrire les mêmes cercles dans le même tourbillon, le même quotidien, le même genre d'existence, jusqu'à la mort et jusqu'à l'enfer. Et chez vous, mes chers amis, les choses en restent-elles aussi là? Dans ce cas, Jésus-Christ est mort en vain pour vous, et sa résurrection ne vous est d'accueil d'aucune utilité, absolument d'aucune utilité. Il n'y a pour vous ni pardon, ni liberté, ni paix avec Dieu, et il ne restait plus qu'un pas à faire. Souvenez-vous, car il a dit, pour un peu, je serai devenu croyant. Cela n'est-il pas bouleversant? Des gens soi-disant chrétiens, mais qui ne sont pas enfants de Dieu. Des gens soi-disant chrétiens, mais qui vont à la perdition éternelle. Des gens soi-disant chrétiens, mais qui n'ont pas la paix dans leur cœur. Et maintenant, je vais vous raconter le deuxième récit qui est le contre-pied de l'autre. L'apôtre Paul arrive un jour à Philippe, ville européenne, où l'on trouve de tout, lieu de plaisir, théâtre, cabaret, bref, tout ce que l'on trouve dans une ville qui se respecte. Et puisque que dans une telle ville, il faut aussi une prison. Il y en avait une à Philippe, et cet établissement était administré par un ancien officier romain qui avait peut-être été nommé à ce poste à cause d'une ancienne blessure. Un jour, on amène à ce geôlier, et c'est ainsi que la Bible l'appelle, deux prisonniers peu ordinaires, l'apôtre Paul et Silas, son compagnon. Ils avaient prêché l'évangile dans la ville avec une rare puissance, mais comme il s'en suivit des troubles parmi la population, les autorités de la ville les firent battre de verges et les ont jetés en prison. On remet donc Paul et Silas entre les mains du geôlier, en lui recommandant de les garder en lieu sûr jusqu'au lendemain. Et lui, une vieille baderne qui ne connaît que sa consigne, acquiesce de les garder en lieu sûr. C'est d'accord, j'y veillerai. Au fond de la prison, il y a une cellule où l'eau suinte le long des murs, et c'est là qu'il les amène et fixe leurs pieds dans des blocs de bois. Si vous me demandez quelle était la religion de cet homme, je vous répondrai la même que celle de la plupart d'entre vous. Il croyait au bon Dieu exactement comme vous. Car à cette époque-là, à Rome, on avait sa religion, mais on ne la prenait pas au sérieux. Exactement comme chez nous. Arrivez-vous à présent à vous mettre dans la peau du personnage? Soudain, il se produit quelque chose d'étrange que l'on ne pourra jamais complètement éclaircir. Tout d'abord, vers minuit, Paul entonne un chant de louange en l'honneur de Jésus-Christ. Sans doute lui a-t-il fallu tout ce temps pour digérer le traitement injuste qu'il avait subi, les coups, l'incarcération, les ceps aux pieds. Ce genre de choses est assez difficile à avaler. Mais tout d'un coup, la pensée lui vient. Le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, m'a racheté par son sang précieux. Je suis à présent enfant de Dieu, j'ai la paix avec lui. Et même ici, je suis dans sa main. Et il se met à chanter un cantique de louange. Silas se joint à lui et chante la deuxième voix. C'est magnifique. Les autres prisonniers les écoutent, sidérés, car jamais encore on n'avait entendu de tels sons dans cette prison, et pour cause. Aujourd'hui, on a compris qu'il est dangereux de laisser un prisonnier chanter les louanges de Dieu. Mais cette fois-là, ce n'était pas encore le cas. Paul et Silas continuent donc à chanter. Bien sûr, cela étonne le geôlier. Sapristi, que peuvent-ils bien chanter? Il tend l'oreille. Mais ce sont des chants religieux. A-t-on jamais vu cela? Prendre ces choses au sérieux et de surcroît ici, en prison. Dans cette espèce de trou, là, en bas, il y a de quoi vous mettre le moral à plat. Et ces gens-là chantent en l'honneur de leur Dieu. Ils se recouchent, mais il est à peine au lit qu'il ressent les secousses d'un violent tremblement de terre. C'est Dieu qui l'a provoqué. Et les portes de la prison s'ouvrent. Les chaînes des prisonniers se rompent. Le geôlier saute de son lit, s'habille tant bien que mal, et constate que les portes sont ouvertes. Grand Dieu, les prisonniers sont partis. On va m'exécuter. Je suis foutu. Et il est sur le point de se suicider lorsque Paul crie d'en bas « Ne te fais pas de mal. Nous sommes tous là. » La Bible ne dit rien de ce qui s'est passé en son for intérieur, mais tout à coup, il a compris. Il existe certainement un Dieu vivant qui intervient en faveur de ses serviteurs. Aussi tout au long de ma vie, je l'ai insulté par ma façon d'être et de faire. Il ne peut que me repousser et me rejeter, car il connaît mon péché. Il sait toutes les saletés que j'ai faites. Oui, il existe un Dieu vivant et moi je suis perdu. » Il se précipite dans la cellule de Paul et s'écrie « Messieurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Mais à présent, la question est vitale. Que puis-je faire pour atteindre le courant libérateur? Si nous l'avait posé à nous, nous lui aurions peut-être prêché un sermon ou fait la morale. À la place de Paul, il se peut que nous lui ayons d'abord demandé de nous faire sortir de prison. Mais Paul répond sur le champ : ce qu'il te faut, c'est le Seigneur Jésus-Christ, crois en lui, et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Le geôlier a très peu de connaissances. Il sait vaguement que ce Jésus sauve de la colère de Dieu, du jugement de l'enfer et de notre ancienne façon de vivre. Mais à cet instant précis, il reçoit le choc salutaire qui l'arrache de son ancienne façon de vivre et l'entraîne vers le courant libérateur qui émane de Jésus-Christ. Il appartient maintenant à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et la Bible rapporte ensuite comment cet homme a fait sortir Paul de son cachot et lui a lavé ses blessures, a écouté attentivement ce que Paul lui a enseigné au sujet de Jésus-Christ et s'est fait baptiser la même nuit même. Oui, encore cette nuit même, il a été baptisé pour témoigner de son appartenance à Christ. Le récit se termine par ces mots. Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Il suivait à présent le courant de la vie. Il avait trouvé la paix avec Dieu. Et l'un, oui, on peut dire de l'un, il est dit que pour un peu, il serait devenu chrétien. Vous rappelez? Mais de l'autre, il s'est vu poussé dans le courant libérateur qui émane de Christ. Chers amis, qu'adviendra-t-il de vous? C'est là la question. Il faut que ça change. Mais comment? Tout d'abord, il faut que vous connaissiez Jésus-Christ. Qu'il faut que vous connaissiez, en effet, le libérateur. Ça, c'est donc le plus important de tout. Jésus raconta un jour une parabole. Un roi organisa un repas de noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs dire aux invités « Venez, car tout est prêt. » Et tous, l'un après l'autre, se mirent à s'excuser. Le premier dit « Je suis en train de traiter une affaire importante et il faut que je m'en occupe sur le champ. » Le second avait une autre excuse. Merci bien pour l'invitation, mais je viens de me marier. Vous comprendrez, en pleine lune de miel, on ne peut pas se préoccuper d'autre chose. En fin de compte, personne n'y alla. En y réfléchissant, j'ai essayé d'imaginer l'attitude ultérieure de ces gens ils ont dû se dire, au fond, j'aurais dû accepter l'invitation au festin du fils du roi, mais il y a eu un empêchement. N'est-ce pas aussi ce que vous dites, chers amis? Au fond, je devrais devenir enfant de Dieu, mais je n'y arrive tout simplement pas. Oui, au fond, oh, je vous en prie, par la foi, acceptez, chers amis, simplement, tout simplement, l'invitation du Fils de Dieu. Tant de personnes me disent, « Oh, moi aussi, je crois. » Je sais bien que les Allemands ont cru à un tas de choses sous le Troisième Reich, au Führer, à l'Allemagne, à la victoire finale, à l'arme miraculeuse, etc. Mais ce qu'il me faut, ce n'est pas une croyance quelconque, mais c'est la paix avec Dieu. Et celle-ci, je ne peux l'obtenir que par Jésus-Christ. Laissez-moi vous montrer à l'aide de quelques exemples, ce que signifie avoir la foi, la véritable. J'ai fait du porte-à-porte dans un quartier très méfiant. Partout, on me claquait la porte au nez en disant « Nous ne voulons rien acheter ». Rassurez-vous, je n'ai rien à vendre. Je suis simplement pasteur. Alors, écoutez bien, nous n'avons pas besoin d'un bigot, une espèce de momier. J'entrais un jour dans un logement dont la porte donnait directement sur la cuisine. Un jeune homme marchait le long en large dans la pièce, l'air assez furieux. « Bonjour, dis-je. Salut, je suis le pasteur. « Quoi? Un bigot, un momier ? » hurla-t-il en s'arrêtant net. « Il ne manquait plus que cela. Sortez en quatrième vitesse car je ne crois plus à rien. J'ai perdu ma foi en l'humanité. » Il venait sans doute d'avoir un coup dur. Je lui répondis, « Jeune homme, on peut se donner la main ? Car moi aussi, j'ai perdu ma foi en l'humanité. Que dites-vous là ? » fit-il ébahi. En tant que pasteur, vous devriez chercher à maintenir la foi en l'humanité. Vous croyez ? Répliquai-je. Je regrette, mais je l'ai perdu. Et quand je pense aux obscénités, à toutes les saletés, à ce désert d'égoïsme qu'est le monde. Non, merci, je ne crois plus en l'humanité. Vous avez raison, concéda-t-il. Mais alors, comment se fait-il que vous soyez pasteur? Oh, c'est que j'ai reçu une foi nouvelle. Une foi que rien ne peut ébranler. Ah ! Je serais bien curieux de savoir de quel genre de foi il s'agit. Je pus alors lui annoncer l'Évangile. Il s'agit de ma foi personnelle, totale, en Christ venu comme sauveur du monde. Car Jésus-Christ, il est là une réalité. Je souhaiterais tant que vous jetiez toutes vos fausses croyances par-dessus bord pour parvenir vous aussi à la foi en celui qui sauve. Récemment, j'ai lu le récit bouleversant d'un épisode de la Deuxième Guerre mondiale qui s'est déroulé à Stalingrad. Au moment où la ville était complètement encerclée par les armées russes, le dernier avion allemand assurant la liaison avec l'arrière venait d'atterrir. On y avait entassé des blessés. Mais d'autres soldats arrivèrent, blessés plus légèrement ou à moitié morts de froid, et ils voulurent aussi monter. Mais il était plein à craquer. Alors ils s'accrochèrent à l'avion, s'agrippant là où leurs mains pouvaient trouver un appui aux poignées de porte, aux trains d'atterrissage. Et puis l'avion a dû décoller ainsi. À l'arrivée, il n'y avait plus un seul de ceux qui se tenaient accrochés à l'avion. Les mains gelées, ils avaient été emportés par la tempête. Seuls ceux qui se trouvaient à l'intérieur furent sauvés. En lisant ce récit, je n'ai pu m'empêcher de faire un parallèle entre l'évangile de Christ, mort et ressuscité pour nous, et cet avion de sauvetage. Il nous permet lui aussi d'échapper à la perdition. Il y a largement assez de place, mais hélas, tant de gens ne sont pas vraiment à l'intérieur. Ils ne sont jamais montés dans l'avion, mais ils se contentent de s'accrocher à l'extérieur de la carlingue. Ils vont à l'église une fois par année, à Noël. Ils ont été baptisés, ce qui ne les empêche pas de croire et de faire comme tout le monde. Et lorsqu'ils meurent, il faut que le pasteur atteste qu'ils ont été de braves gens. Mais au fond, ils sont toujours restés à l'extérieur. Et sans l'ombre d'un doute, ils seront un jour emportés par la tempête. Seuls ceux qui sont à l'intérieur seront sauvés. En faites-vous partie, mes chers amis, je vous le demande. J'ai dans ma cave, a dit un jour un conservateur du musée des Beaux-Arts, oui, j'ai dans la cave le célèbre retable de Memling. Si vous voulez le voir, je vous le montrerai très volontiers. C'était bien sûr une belle occasion à saisir. Le conservateur du musée le fit donc descendre avec un ami dans sa cave. C'était un tableau magnifique. Les soldats à cheval avec leurs lances, les mercenaires jetant les dés, la foule bigarrée, les femmes en larmes, les pharisiens au regard moqueur, et par-dessus tout ce monde, les trois croix. Soudain, le regard du pasteur fut attiré par un détail fort étrange, car au beau milieu de la cohue, au pied de la croix de Christ, il y avait un espace libre, et ce pasteur a fait la remarque au conservateur du musée, et il l'a fait remarquer. C'est tout de même un peu étrange qu'au beau milieu de cette foule, directement au pied de la croix, qu'il y ait comme un espace vide. À quoi l'artiste a-t-il bien pu penser? Ces peintres du Moyen Âge voulaient en effet transmettre un message par leur tableau. C'était en quelque sorte déjà des expressionnistes. Et mon ami m'expliqua la chose. c'était un pasteur ordonné qui croyait. Il a expliqué. Voilà, me semble-t-il, ce que voulait dire le peintre à cet endroit, juste au pied de la croix. Il y a là, en effet, une place vide, une place libre. Tu peux t'y mettre, toi, si tu veux. Et il m'arrive souvent de penser à ce tableau lorsque nous chantons les strophes suivantes. Jésus, Jésus mon sauveur, à l'ombre de ta croix, devant ton immense douleur, je t'adore et je crois. Là, mes ténèbres sont lumière, et mon fardeau n'est plus. Humble à tes pieds, dans la poussière, tiens-moi toujours près de toi, Jésus-Christ. Oui, je me réjouis, chers amis, qu'à l'ombre de la croix de Christ, le Fils de Dieu, il y ait un espace libre, une place pour moi et pour toi. Et avez-vous, chers amis, encore, voulez-vous encore attendre, entendre encore longtemps, pour vous mettre à cette petite place libre à côté de Christ? Je vous en pose la question. Avant de terminer par la prière ensemble, je voudrais vous donner deux petits mots de consolation que je reçois pour vous de l'Esprit Saint. Écoutez bien. La souffrance de Dieu le Père est d'être mis si souvent hors circuit par les hommes, même par les siens. L'on prend en considération l'assistance et le secours qui viennent des hommes, mais l'on ne compte pour ainsi dire plus sur l'intervention et l'aide de Dieu. Toutefois, celui qui n'apprend pas maintenant à compter sur Dieu dans la vie de tous les jours ne pourra plus l'apprendre dans le temps de grande détresse, quand tout secours humain fera défaut. Cet homme-là ne trouvera aucune issue. C'est pourquoi il importe d'apprendre aujourd'hui à compter sur le secours de Dieu. Christ nous apporte la nouvelle d'une grande joie. Les pécheurs, de pauvres créatures, sont autorisés à appeler Père le Dieu Tout-Puissant qui a fait sortir du néant une création pleine de gloire. Sommes-nous conscients de ce privilège? Prends au sérieux le privilège d'être un enfant qui a comme père un Seigneur dont la puissance est sans limite. Utilise ce privilège par le moyen de la prière et de la confiance de l'enfant, et tu seras secouru là où tu en as le plus besoin. Chers amis, prions maintenant ensemble. Père céleste, tu es toi-même l'éternelle miséricorde, et tu nous pardonnes nos péchés, à nous, pauvres enfants des hommes, avec mansuétude et indulgence, comme en use un père envers ses enfants. tu es plein de patience à notre égard. Grâce te soit rendue, ô Dieu, pour cette bonté et cette patience. Nous t'en prions, donne-nous cette grâce humiliante et nécessaire de découvrir combien souvent et par combien de manières nous nous rendons coupables envers les hommes, nos frères, et violent chaque jour ton saint commandement d'amour. Révèle-nous combien nous sommes durs, rancuniers, impitoyables et prompts à la condamnation pour ceux qui nous ont offensés. Apprends-nous à penser que ton pardon et ta miséricorde atteignent ceux-là, seuls, qui pardonnent eux-mêmes et sont eux-mêmes miséricordieux. Donne-nous l'esprit de réconciliation, de clémence et de charité. Ô Dieu, accorde-nous ton Esprit Saint, rends-nous semblables au Christ, de telle sorte que nous puissions avec sérieux et amour chercher le relèvement de celui qui est tombé. Gardons-nous d'oublier que nous sommes faibles nous-mêmes, en proie à la tentation et capables de trébucher. Apprends-nous à pardonner comme tu nous as pardonné en Christ. Entends-nous, ô Dieu, et aie pitié de nous. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais, oh oui, n'oubliez jamais que Dieu vous aime. Et nous vous aimons également de tout notre cœur. Soyez bénis et merci pour l'intérêt que vous portez à ces messages, à ces études. Et j'espère que vous continuez à être intéressés à la parole de Dieu. À bientôt à nouveau. Au revoir, mes très chers amis.